Dali, Van Gogh, Goya, Dürer, voyage en Terre de Couleur. Une émission réalisée par Corinelle. En Terre de Couleur vous propose de flâner sur les traces d'un peintre à travers son histoire, son œuvre, ses musées. Je vous souhaite un agréable voyage dans l'univers de la peinture et spécialement pour cette série, au cœur de l'impressionnisme. Une touche de jaune de cadmium, un trait de Carmen Garance, une pointe de bleu de Prusse, un soupçon de blanc de titane, et voilà, la palette est prête. Prenons nos pinceaux, la toile encore vierge, et posons notre chevalet en terre parisienne. Bienvenue chez Oscar-Claude Monet, peintre français, Paris 1840, Giverny 1926. L'hiver 90, le peintre se consacre entièrement à sa première véritable série d'émeules du Clos Morin, près de chez lui. Il travaille avec acharnement. Les toiles se succèdent, meules solitaires ou par paires, petites ou grandes. Il est aidé par Blanche Ochédé qui lui apporte les toiles.
Une acquisition.
Un contretemps vient freiner son élan à la fin octobre. En effet, la maison qu'il loue à Giverny est mise en vente par les Saint-Géraud propriétaires. Quitter Giverny n'est nullement envisageable pour l'artiste qui tient à cette demeure et à son vaste jardin. Ayant renoué de cordiales relations avec Durand Ruel, marchand d'art, il lui demande pas mal d'argent pour l'aider à financer cette propriété. Claude Monet achète donc à 50 ans Giverny pour 22 000 francs le 17 novembre 90. Il commence aussitôt des plantations de toutes sortes. Début 91, il vend à la maison Bousseau-Valadon trois tableaux à 3000 francs chacun. Le 4 mai, il expose chez Durand Ruel, rue Le Pelletier, 15 toiles d'émeules et autres œuvres, dont les deux portraits de Suzanne Ochédé, essais de figures en plein air. Geffroy, une fois de plus, préface le catalogue. C'est un véritable triomphe. Dans une lettre à son fils, Camille Pissarro raconte le 5 mai.
Tout est vendu dans les 3 à 4000 chaque. Cela m'a paru très lumineux et très maître, c'est incontestable. Les couleurs sont plutôt jolies que fortes, le dessin est beau mais flottant, dans les fonds surtout. C'est égal, c'est un bien grand artiste, inutile de te dire que c'est un grand succès.
Les peupliers.
Après la série des meules, Monet va s'atteler jusqu'à l'automne 91 à une autre série, celle des peupliers, avec près de 25 toiles. Nous les avions déjà remarquées, fondues dans l'arrière-plan des champs de coquelicots ou des meules. Maintenant, ils deviennent à leur tour la seule préoccupation de Monet. Le peintre va utiliser un format de toile plus haut que large. Là aussi, le sujet est décliné en différentes tonalités, chaudes, jaune-orangé, ou froides, vert-turquoise, bleu-vert-bouteille.
Où a-t-il trouvé ces peupliers ?
Ces arbres bordent le marais de Limette sur la rive gauche de l'Epte, en amont de Giverny. Monet remonte la rivière en norvégienne, une sorte d'embarcation étroite, mais peu pratique pour installer plusieurs toiles. Il demande alors au peintre Caillebotte.
Votre bateau me serait d'une grande utilité en ce moment. Je travaille à une quantité de toiles sur l'Epte et suis très mal à l'aise en norvégienne. Si le bateau est stable et assez grand, il peut me rendre un grand service.
Parfois, il amarre son embarcation dans son hangar à bateau de l'île aux Orties, afin de peindre ses peupliers, s'élançant vers le ciel et se réfléchissant dans l'eau.
Contretemps.
Un beau matin d'été, alors qu'il a commencé à peindre, Monet découvre que les arbres du marais sont mis en adjudication par la commune. Fou de rage, il rend visite au patron de la scierie, futur acquéreur, et lui demande son prix.
Allez plus haut, je paierai la différence, mais laissez-moi le temps qu'il me faudra pour les peindre.
Par ailleurs, les conditions climatiques ne sont pas des meilleures. Monet se désespère pour ses arbres. Une autre fois, il remarque que les peupliers sont marqués au pied à la hache. Après renseignement, les arbres vont être abattus sous peu. Une fois encore, Monet doit verser de l'argent afin de retarder l'abattage. À l'instar des meules, cette série va connaître aussi un succès formidable. Durand Ruel y exposera en mars 92 une quinzaine de peupliers à 4000 francs le tableau. Ce sera la première série à être exposée seule, d'un seul tout. La maison Bousseau-Valadon, par l'intermédiaire de Maurice Joyant, successeur de Théo Van Gogh, achètera quelques tableaux pour une exposition dans l'annexe du boulevard Montmartre, notamment Peupliers au bord de l'Epte, collection particulière, toile vibrante d'oranger ponctuée de violet. En juillet 91, dans une lettre à Mallarmé.
J'ai beaucoup à faire, des quantités de toiles neuves qu'il faut bien sûr finir. Et puis, je dois l'avouer, j'ai beaucoup de peine à quitter Giverny, surtout maintenant que j'arrange la maison et le jardin à mon goût.
En effet, sa passion très ancienne des fleurs, du jardinage, va en grandissant. Déjà, à son retour d'Italie, après avoir visité la Villa Moreno, il a fait construire une serre pour plantes exotiques. Il échange graines et bulbes avec ses amis. En voyage, il s'informe auprès d'Alice Ochédé de son jardin.
Et le jardin, existe-t-il encore des fleurs ? Une véritable adoration alors !
Monet n'a que trois passions dans la vie, son art, la botanique et Alice Ochédé. D'ailleurs, il lui déclarera à Fresseline en avril 89.
Mon seul souci, ma vie, c'est l'art et vous.
Leur situation familiale est toujours aussi ambiguë, avec un Ernest Ochédé ruiné, à court d'argent, en fuite en Belgique ou à Paris, dans des affaires douteuses, mais toujours présent dans le milieu de l'art. Ses visites se font de plus en plus rares. Justement, en cet été 1890, il renoue avec sa fille Marthe pour lui demander de l'argent. Sa santé se dégrade de plus en plus, attaque de gouttes et de paralysie. Alice est à son chevet en mars 91, lors de son dernier souffle. Claude Monet prend en charge l'enterrement et la concession dans le cimetière de Giverny. À la fin de l'année, le peintre fait un bref séjour à Londres en décembre et descend à l'hôtel Barbey, Curzon Street. Il rend visite de nouveau à Whistler, qui le présente au club d'artistes de Chelsea, et retourne à Giverny pour Noël.
Voyage à Rouen.
En février 92, Claude Monet se rend à Rouen et en profite pour effectuer sa visite annuelle à son frère Léon, qui dirige la société de produits chimiques GJ. Les relations entre les deux frères sont plutôt tendues à certains moments de leur vie. Leur demi-sœur, Marie Monet, dont il désavouait l'existence, vient de mourir au Havre, et les deux frères héritent de sa part du côté paternel. Léon emploiera son neveu Jean après son service militaire. Ce frère fut aussi un amateur de peinture au tout début de l'impressionnisme.
La cathédrale de Rouen.
Monet, qui est descendu à l'hôtel d'Angleterre, a trouvé un appartement vide duquel les fenêtres donnent sur le monument, masse imposante dans l'embrasure de l'ouverture. Le 12 février, il s'exclame.
C'est une rue de besogne que j'entreprends là. Comment traiter cette paroi grisâtre et compliquée ?
Durant les deux années 92 et 93, de février à la mi-avril, il devra changer par trois fois d'appartement. Il va réussir à saisir le blanc crayeux, le gris, le noir de la pierre, en une symphonie de bleu, de rose, de mauve ou d'or, suivant la luminosité. C'est ainsi qu'il va nous transmettre 28 tableaux de la façade ouest de la cathédrale de Rouen, sans compter les quelques toiles détruites en cours d'exécution. Monet ne cherche pas à reproduire l'architecture gothique de cet édifice, mais à en saisir les jeux d'ombre et de lumière sur les aspérités de cette pierre crayeuse. Il est confronté à la difficulté de tout saisir.
Chaque jour, je découvre les choses non vues la veille. J'ajoute et je perds certaines choses. Enfin, je cherche l'impossible.
Écrit-il à Alice le 9 avril. Les toiles, bien que datées de 94, ont toutes été exécutées en 92 et 93, mais achevées chez lui à Giverny. Monet est conscient de la valeur de cette série. Aussi, il va mettre en concurrence les galeristes Durand-Ruel, qui n'a plus l'exclusivité, Bousseau-Valadon, Maurice Joyon, Petit. Visites, négociations, marchandages, coups bas. Il dicte ses conditions. 15 000 francs pièce. À Durand-Ruel, le 22 mars 92.
Je veux du reste, désormais, ne plus vendre mes toiles d'avance. Je veux les finir d'abord et sans me presser et choisir au bout d'un certain temps quelles sont celles que je vendrai.
Finalement, les œuvres partiront pour 12 000 francs. Durand-Ruel organise une exposition du 10 au 31 mai 95 de 20 tableaux des cathédrales. La manifestation remporte un vif triomphe. Claude Monet est enfin reconnu. Pissarro raconte à son fils.
Je regretterai que tu ne sois ici avant la fermeture de l'exposition Monet. Les cathédrales vont être dispersées d'un côté et d'autre, et c'est surtout dans son ensemble qu'il faut que ce soit vu.
Georges Clémenceau, ami du peintre, lui consacre un article élogieux dans la Justice du 20 mai 95, ayant pour titre « Révolution de cathédrale ». Comme toujours, certaines voix dissonantes se lèvent, telles le critique André Michel.
Le procédé a quelque chose d'exaspéré et de morbide.
Schmitt déclare
« Maçonnerie terrifiante, murailles ravalées au balai !»
en parlant des empattements sur la toile, ou encore le peintre Cros qui qualifie les toiles de pièces montées.
Noces en vue.
Parallèlement à sa série des cathédrales, Claude Monet doit faire face à une crise familiale, sinon deux. Suzanne Ochédé, et demandé en mariage par un peintre américain, Theodore Earl Butler. Bouleversement dans la tribu, avec une mère, Alice, possessive, qui aimerait bien garder ses enfants sous son aile. Le futur couple va emménager dans une habitation à Giverny, dans un premier temps. Autre révolution, Monet a l'intention de se marier avec Alice, mais avant le mariage de Suzanne. C'est ainsi que le 16 juillet, Claude Monet épouse Alice Ringaud, veuve au Chédé, avec pour seul témoin Léon Monet, Georges Pagny, beau-frère d'Alice, Gustave Caillebotte et le peintre. Il met enfin un terme à une situation familiale des plus équivoques pour l'époque. 4 jours plus tard, le 20 juillet, il peut accompagner légitimement à l'église de Giverny sa belle-fille, Suzanne au Chédé.
Le jardin d'eau.
En février 1993, le peintre décide d'agrandir son jardin par une nouvelle parcelle séparée de sa propriété par une route et la voie de chemin de fer. Cette annexe sera reliée par un petit pont souterrain. Le souhait de Monet est de créer un étang alimenté par le ruisseau. Très vite, il est confronté à l'opposition des habitants de la commune qui craignent que leur bétail ne soit empoisonné par les eaux, refuge des plantes aquatiques. Dans une lettre au préfet demandant une autorisation, il écrit
« Je tiens également à ce que vous sachiez que la dite culture des plantes aquatiques n'a pas l'importance que lui implique ce mot et qu'il ne s'agit là que d'une chose d'agrément et pour le plaisir des yeux et aussi d'un but de motif à peindre. Puis, enfin, que je ne cultive dans ce bassin que des plantes telles que nénuphars, roseaux, iris de différentes variétés qui croissent généralement à l'état spontané le long de nos rivières et qu'il ne peut être question d'empoisonnement de l'eau. »
Finalement, il obtiendra satisfaction. Le bassin sera creusé, surmonté de son pont japonais au-dessus des nénuphars, devenant par la suite le motif de la célèbre série des nymphéas.
Encore une disparition.
Le 21 février 1994, Gustave Caillebotte, peintre, mécène des impressionnistes et collectionneurs, décède et lègue à l'État 69 tableaux et pastels, dont 16 Monet. 8 sont au musée d'Orsay, Régate à Argenteuil, Le Déjeuner, Un coin d'appartement, Les Tuileries, la gare Saint-Lazare, l'église de Vétheuil, le Givre et les rochers de Belle-Île. Pendant ce temps, Monet termine ses cathédrales dans son atelier de Giverny. Allons maintenant en admirer quelques-unes à Paris et à l'étranger.
Du côté du musée.
Le musée d'Orsay à Paris possède plusieurs versions de cet édifice dans des nuances variées, dont la cathédrale de Rouen, le portail et la tour Saint-Romain, effet du matin, harmonie blanche. La cathédrale de Rouen, soleil matinal, harmonie bleue. La cathédrale de Rouen, le portail, temps gris. La cathédrale de Rouen, le portail et la tour Saint-Romain, plein soleil, harmonie bleu et or. Le musée Pouchkine à Moscou détient la cathédrale de Rouen midi, tandis que le National Museum of Wales de Cardiff expose la cathédrale de Rouen, symphonie en gris et en rose. Souvenez-vous de ces peupliers, la cime dans les nuages et les pieds dans l'eau. Des œuvres aériennes d'une grande richesse chromatique, baignées de lumière printanière, estivale ou automnale. La Tate Gallery de Londres en possède une version dans les tons froids, de même que le musée des Beaux-Arts de Boston, avec peupliers au bord de l'Epte crépuscule. Pour des coloris plus chauds, allez voir les peupliers effets blancs et jaunes au musée des Arts de Philadelphie. De même, les peupliers, trois arbres roses, automne. En les voyant, le peintre Pissarro s'exclama.
Quelle belle chose, les trois arrangements de peupliers le soir, que ces pins et si ornemental.
Enfin, vous regarderez Effet de vent, série de peupliers à Orsay. Ce tableau, acheté en 1893 par Paul Durand-Ruel, resta assez longtemps dans son giron. Refermons maintenant la porte du musée et rendons-nous dans l'antre du peintre, c'est-à-dire son atelier.
L'instant pratique. Pratique.
Pour construire son tableau en ligne géométrique, Monet découpe la toile en lignes verticales, représentant les troncs des peupliers. Ces arbres suivent les méandres du cours d'eau, retranscrits ici par des points de fuite à droite ou à gauche. La ligne horizontale symbolise la rive. Opposition des lignes courbes et des verticales et des différents plans. Un premier, un second et un arrière-plan pour donner de la profondeur au tableau. Le format utilisé est plus haut que large, 90 sur 70 cm environ. Notre voyage s'achève pour aujourd'hui sur la reconnaissance de Claude Monet. Je vous invite à le poursuivre sur cette même antenne, de nouveau à l'étranger. Voyage en terre de couleur, un programme Maurice Clément Fèvre, technique, participation, Pascal Laurière.